Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour!
Bonjour!
On a envie de partager nos réflexions du moment. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre nous, on avance pas mal dans nos réflexions et notre vision de la gouvernance dans les oasis.
Mais pas que.
Mais pas que. Et toujours en lien avec les enfants, l'éducation, l'accompagnement de l'enfant, la manière dont nous grandissons dans ce monde. Et mettre en lien tout ça, c'est vraiment passionnant.
Bah oui, d'autant plus que les découvertes, on les fait suite à certains échanges qu'on peut avoir avec des personnes qui sont aussi confrontées à des problématiques telles que les nôtres, que ce soit d'un côté ou de l'autre de cette supposée barrière hein, qu'on fait volontiers, à la fois symboliquement et concrètement, entre d'un côté des gens qui seraient investis d'un pouvoir, d'une autorité, et de l'autre côté des personnes qui, justement, en seraient dépourvues. Donc là, je parle évidemment du monde dit des adultes, dans le cadre des collectifs, de ce qui nous préoccupe et de ce qui nous occupe à plein temps depuis maintenant plus de 20 ans, c'est les oasis.
Et ça nous ramène forcément aux relations de pouvoir, comme tu viens de l'exprimer, Laurent. Concrètement, on a identifié deux sortes de conflits. Il y a des conflits plutôt interpersonnels. Et dans le conflit interpersonnel... ce qu'on a vu vraiment clairement, c'est que les personnes qui se mettent mutuellement en insécurité rentrent en conflit à ce moment-là. L'un crée de l'insécurité chez l'autre et vice-versa. Et dans les collectifs, il y a un deuxième type de conflit qui est le conflit lié à la direction du projet, à la manière dont il est organisé, à la vision. Et c'est très souvent relatif à un ou plusieurs fondateurs. Donc effectivement, à une relation compliquée avec ce qui pourrait représenter une forme d'autorité dans un contexte où on aspire à une horizontalité.
On va peut-être plus s'attarder sur ce deuxième type de question dans la mesure où la première version dont tu parles, les conflits interpersonnels, il y a vraiment beaucoup d'outils consacrés à leur résolution et surtout, ils n'affectent pas durablement un collectif. C'est-à-dire comme c'est l'apanage... De quelques personnes, disons que ça ne vient pas gratter forcément le cœur du réacteur.
Peut-être pas le cœur du réacteur, mais ça peut nuire à l'ambiance générale d'un collectif. Quand il y a deux personnes qui ne se supportent pas dans un collectif, ça peut être assez pénible pour tout l'entourage et du coup assez insécurisant aussi. Par exemple, récemment, on a eu à observer que des enfants pouvaient être témoins d'échanges qui sont agressifs entre des personnes adultes. Et c'est pas notre rêve que des enfants puissent assister à ça, et ça peut vraiment nuire aussi à la raison d'être.
Oui, merci de le souligner. Donc c'est vrai que c'est quand même une part qu'il faut surtout pas sous-estimer. Après, là où on a été très interpellé ces derniers temps et où on a senti qu'il y avait une pépite quelque part qui était cachée, justement, qui était très contre-intuitive. Au regard de notre culture, de notre façon d'être au monde et de voir le monde, cette pépite, c'était vraiment revisiter notre rapport à la hiérarchie. Parce oui. qu'à cet endroit-là, on s'est découvert une vraie ambiguïté et un vrai contresens même, qui est fait même dans le mot, puisque tu es allé regarder l'étymologie du mot ce matin.
Ben oui, ça veut dire... sacré, hiérarchie, donc on a hieros qui est relatif au sacré et arché qui veut dire le commandement du sacré ou le pouvoir du sacré en fait.
C'est ça.
C'est ça la hiérarchie.
Donc évidemment, dit comme ça, ça peut. Alors nous, enfin moi je sais que ça personnellement je trouve que c'est assez inspirant parce que dès qu'on met du sacré quelque part, je trouve que ça calme. Enfin moi ça me calme quand je vois ça, mais je vois bien que ça peut activer aussi tous les leviers de l'insécurité, justement liés au fait des représentations qu'on peut avoir, qui sont pour certains sectaires, pour d'autres... voilà, dès qu'on touche au sacré, il y a des gens qui sont épidermiques à ça, qui ont un rejet épidermique de cette question-là, de cette notion-là. Donc, l'idée, c'est pas de rentrer là-dedans, parce que... Mais disons que c'était un point de départ qui nous a intéressé dans la mesure où, effectivement, il y a quelque chose qui domine. Il y a quelque chose qui domine. Il y a quelque chose qui est au-dessus d'autres choses. Et ça, c'est vraiment la question, le sujet proprement intolérable, la plupart du temps, parce que ça insécurise énormément d'avoir quelqu'un au-dessus de soi, d'avoir quelqu'un qui a du pouvoir sur nous, qui peut exercer justement sa vision, et potentiellement à notre détriment. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord, mais si on est en dessous, en fait, on n'a pas notre mot à dire. Et donc, évidemment, de ce point de vue-là, c'est extrêmement...
insupportable, presque.
C'est ça, c'est insupportable, ouais. Et on n'a pas du tout envie de vivre ce genre de situation.
La hiérarchie, dans sa définition, c'est plutôt l'organisation, c'est-à-dire la décision qui est prise de mettre des choses au-dessus, des choses en dessous, des choses au niveau d'eux, des priorités. En fait, c'est la hiérarchie en soi, c'est vraiment l'organisation.
Alors, justement, et c'est là où on commence à... Enfin, moi, c'est là où ça a commencé à me rassurer, c'est de découvrir que qui que nous soyons et quoi que nous pensions de cette question-là, nous hiérarchisons en permanence. Je mets au défi quiconque va écouter ce qu'on dit là, de nier cette évidence. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu hiérarchises tes priorités. Tu vas peut-être te doucher avant de prendre ton petit déjeuner. Tu vas choisir de faire ça plutôt que ça. Tu vas mettre plus d'importance dans telle ou telle activité. Eh bien, en faisant ça, donc en fait, on s'aperçoit que la hiérarchie, on en fait, mais absolument à longueur de temps. J'en parlais avec une personne que j'ai croisée au marché, parce que je vendais des fromages la semaine dernière, et en fait, on a papoté une bonne vingtaine de minutes, alors qu'elle était pas forcément prévu ça. Je dis, tu vois, là, t'as choisi qu'on ait cette conversation-là, et moi aussi, j'ai choisi qu'on ait cette conversation-là, et à un moment donné, on a modifié nos priorités, parce que là, je devrais être plus en train de compter ma caisse ou de faire attention à mes fromages, et toi, tu serais peut-être plus en train de continuer à faire tes courses, mais là, on s'est dit, la priorité, parce que l'échange est important, et on l'a mis en priorité. Et que hiérarchiser, c'est en fait une activité qu'on fait au quotidien, tout le temps. Donc ça, constater cette évidence, moi ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, en fait, c'est pas si éloigné de ma nature, en fait, déjà. C'est pas quelque chose qui est construit par l'humain, déjà, voilà. Et ne serait-ce que pareil dans le règne animal, dans le règne végétal, etc., il y a des strates, en fait, qui sont en dessous, d'autres qui sont en dessus. Et ce qui est au-dessus n'est pas meilleur, n'est pas mieux que ce qui est en dessous. C'est juste que c'est au-dessus, c'est tout.
On peut prendre l'analogie du corps humain aussi, parce qu'on a des organes. Souvent, on a comparé certains types d'organisations, comme l'holacratie, à un corps humain constitué d'organes qui sont interreliés entre eux. Mais dans un corps humain, il y a quand même des organes qui sont prioritaires par rapport à d'autres. On peut te faire une ablation de la vésicule biliaire, on peut te faire une ablation de la rate et tu vas survivre. Si on te fait une ablation du cœur ou du foie, c'est la mort assurée. Donc c'est bien qu'il y a des organes qui ont des fonctions qui sont plus vitales que d'autres pour l'organisation.
C'est ça.
Donc ça aussi, c'est de la hiérarchie.
C'est ça. On peut se passer de certaines choses et on ne peut pas se passer de certaines autres. C'est pareil, c'est pas de l'idéologie, quoi. C'est vraiment, on essaie de faire de l'analogie avec le réel pour essayer de s'en sortir et tirer des leçons dans le cadre après de l'implémentation dans nos organisations, et pas l'inverse. C'est pas, on n'a pas une idée qu'on veut faire absolument rentrer dans le réel. C'est complètement l'inverse. On observe le réel et après on regarde comment il peut s'appliquer dans nos organisations.
Dans nos organisations, il y a des rôles qui sont plus vitaux que d'autres également.
Alors, ça, c'est nous qui avons impulsé cette idée. Et ça, c'est important de le redire. C'est-à-dire que c'est même si on fait l'analogie avec le réel, avec la nature, comme on vient de le dire, ce qui est important par rapport au développement de ce sujet-là, c'est que oui, toi et moi, en arrivant à l'Oasis de Poulard, nous avons mis en avant et en priorité certaines notions qui sont pour nous absolument fondamentales.
En nous appuyant sur une expérience de destruction de projet.
En plus, alors ça c'est une des
raisons
pour
lesquelles... Donc on a quand même expérimenté ce qui ne fonctionne pas.
Alors oui, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons tout de suite placé l'église au milieu du village, au sein même des statuts de la coopérative, dans laquelle il y a un collège dit des gardiens qui est censé protéger ça, qui est censé protéger les priorités que nous avons décidé au départ. Donc oui, 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 mille fois oui, Sophie et moi-même avons décidé, en tant que personne source fondatrice de ce projet, quelles étaient les priorités pour ce projet. Oui, ça c'est parfaitement vrai, c'est légitime, c'est notre énergie. Le propriétaire de ce lieu nous a confié ce lieu sur la base des priorités que nous lui avons annoncées. Donc tout existe à l'Oasis de Poulard en vertu de notre engagement et de la vision que nous avons présentée préalablement. Donc ça, oui, c'est une façon de dire, c'est ce qu'il y a de plus haut aujourd'hui au niveau du projet. Et cette vision, c'est quoi? C'est l'enfant au cœur de nos préoccupations et des activités qui tournent autour de son plein épanouissement.
Et du prendre soin.
Et du prendre soin.
Prendre soin de soi, de l'autre et de la nature.
Voilà. Et donc, une fois qu'on a posé cette vision-là, et que ce n'est pas n'importe qui l'a posée, parce que n'importe d'autres personnes pourraient poser ces mêmes mots avec une autre façon de l'incarner, une autre façon de la mettre en œuvre. Non, ce n'est pas n'importe qui a posé cette vision, c'est Sophie et c'est moi. Et à partir de là, on en a même fait des déclinaisons. C'est-à-dire qu'on a posé les 5 piliers, on a posé des chartes, on a posé un cahier des charges, qui est notre production, qui est la production des personnes sources et des fondateurs que nous sommes. Et ça, effectivement, dans ce cadre-là, c'est présenté au monde, c'est présenté au public. Et après, les gens, ils se déterminent et ils choisissent. Et c'est là où tout le monde a le choix de se dire « Waouh, ça me plaît, c'est sympa. Ok, alors c'est vrai qu'ils ont fait un collège des gardiens dans les statuts de la coopérative qui a plus de 40% des voix. Ça veut dire que par rapport aux autres collèges qui ont entre 10 et 15% des voix, c'est un collège qui est majoritaire. » Eh bien oui, exactement. C'est exactement le reflet de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus en termes de raison d'être, en termes d'identité, en termes de vision et de comment on matérialise cette vision. Et ça, ça n'est pas négociable. C'est évolutif, mais ça n'est pas négociable. C'est-à-dire qu'on peut toujours le mettre à jour au gré des tensions d'évolution parce qu'on est là pour ça, pour être vivant. On est là pour écouter. On est là pour prendre soin justement de cette vision. Et s'il y a des personnes qui, dans le cadre du prendre soin de cette vision, de la matérialiser, de lui donner de la dynamique, de la nourrir, s'aperçoivent qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire évoluer, qu'on peut améliorer, qu'on peut bonifier, qu'on peut même, pourquoi pas, remettre en question parce qu'on a fait des découvertes qu'on ne connaissait pas avant, etc. C'est parfaitement ouvert. En revanche, c'est ouvert dans le cadre que les membres du Collège des gardiens, que sont Sophie et moi pour l'instant, définissons et avons défini au départ. Parce qu'à cet endroit-là, c'est à nous de dire si oui ou non, cet apport est une réelle bonification et qui approfondit et qui améliore la vision au départ, ou au contraire, qui est dissidente, qui serait contraire finalement aux principes que l'on souhaite appliquer et qu'on a mis en exergue de manière très explicite dès le départ de ce projet.
Et moi, là où je fais le lien avec l'enfance, et c'est très important parce qu'on ne peut pas entendre l'un sans entendre l'autre, c'est que tout ce que tu viens de décrire, Laurent, ça peut vraiment heurter des gens. Et je suis sûre qu'à ce moment même, il y a parmi les gens qui nous écoutent, quelqu'un qui est en train de penser, bah, c'est comme avant, quoi. C'est des prises de pouvoir, ce sont des chefs, ce sont des dirigeants. Qui vont prendre les décisions au détriment d'un collectif qui pourrait avoir d'autres aspirations, mais qui n'aura pas le pouvoir de les mettre en œuvre. Donc effectivement, c'est le cas dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il y a une marge de manœuvre pour le collectif, mais il y a un endroit qui n'est pas négociable, qui n'est pas à remettre en question et qui n'est pas soumis au débat. Voilà, c'est un endroit, c'est l'endroit de la vision, c'est l'endroit de la raison d'être, c'est l'endroit de la direction et du rôle des gardiens, pour ce qui nous concerne. En ce moment même, nous assistons, par exemple, à la transformation radicale d'un lieu où il y avait des fondateurs qui avaient une vision très claire de la direction dans laquelle le lieu qu'ils ont acquis devait se déployer. Donc un projet qui est très fédérateur, qui a mobilisé des dizaines de personnes, qui a attiré des centaines de visiteurs, qui a fait parler de lui sur les réseaux, etc. Donc un projet très porteur, qui prend fin simplement parce que les fondateurs n'ont pas eu les moyens de rappeler et d'imposer la vision pour laquelle tout le monde s'est mobilisé. Donc il y a eu d'autres aspirations dans le groupe qui ont cheminé et chemin faisant, la décision démocratique, entre guillemets, parce que moi je trouve que c'est plus la dictature du nous à ce moment-là, mais la décision démocratique a été que le projet initial s'arrête, donc les fondateurs s'en vont, et il y a un autre projet qui naît et qui continue avec d'autres inspirateurs, une autre direction, etc.
Et à cet endroit-là, en fait, on peut se dire, et on peut vraiment se dire, il y a deux polarités. C'est-à-dire, on peut se dire, bah, c'est normal, c'est la vie, c'est ce que veut la vie. C'était très bien parce que les fondateurs ont eu leur place et ils ont permis aux choses de se mettre en ordre, de marcher et d'exister. Et puis après, ils laissent la place à autre chose parce qu'effectivement, et on peut même faire l'analogie dans le règne végétal, par exemple, hein, où on commence à avoir, je ne sais plus dans quel ordre, mais je crois qu'on a les mousses, et avant les mousses même il y a le lichen, après les mousses, et puis après il y a les plantes, et puis après elles laissent la place, chacun laisse la place à tour de rôle, hein, pourquoi pas. Et on a les plantes pionnières effectivement qui à un moment donné s'éteignent pour laisser la place à d'autres. Soit, on peut très bien avoir cette vision-là. Et en même temps, il se trouve que pour l'avoir subi nous-mêmes, donc alors qu'on y avait mis 20 ans de notre existence, nous aujourd'hui on a envie de creuser une autre expérience.
Alors pourquoi? Parce que tu as pas dit. Parce que effectivement, ce qui pose problème, si tout était harmonieux, merveilleux, magnifique, porteur, soutenant, lumineux, il n'y aurait pas ce problème. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a énormément de violence. Il y a un sentiment de violence terrible pour ceux qui sont évincés du projet. Il y a un sentiment de déconvenu pour ceux qui étaient venus œuvrer dans ce projet pour y participer et qui voient qu'il ne va pas aboutir. Et il y a aussi les innocents, les enfants qui sont sur le carreau parce qu'il y avait quelque chose qui leur était destiné et qui finalement avorte. Donc il y a beaucoup de souffrance et c'est un climat conflictuel qui accompagne ces changements. C'est pas un climat de paix et d'harmonie, c'est un climat conflictuel.
C'est pas la vie qui se donne à la vie dans la tranquillité du devoir accompli, parce qu'effectivement je vois très bien.
Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans plusieurs lieux en ce moment, et puis depuis des années, et puis ça va continuer tant qu'on n'aura pas mis en priorité, justement, on va encore hiérarchiser, parce que moi, ça m'a obligée à revoir mes priorités, à me dire, mais dans les oasis, il y a un devoir de paix, en fait. On doit honorer un devoir de paix, parce que dans le monde entier est secoué par les conflits, des conflits parfois extrêmement violents, et on ne vous fait pas un dessin. L'humanité fonctionne avec ces conflits, fonctionne régulièrement, les retrouve, c'est de manière presque automatique, hein, on s'attend presque à ce qu'un conflit suive un autre conflit, etc. Il y a des périodes de paix entre deux, mais fatalement, tout ça est très fragile. Et c'est là que moi, ça me renvoie à une question systémique, c'est comment ça se fait-il que nous soyons à ce point enlisés dans la culture du conflit? Et c'est pourquoi je voulais en venir à l'enfance, parce que lorsque nous sommes enfants, nous subissons cette relation de pouvoir dans le cadre de la violence éducative ordinaire, qui est le schéma relationnel connu.
Que nous avons appris.
Absorbé, tout à fait, et reproduit par la suite. Et c'est là où le bas blesse, et c'est là où les termes hiérarchie, pouvoir, etc. deviennent inentendables, inaudibles pour la plupart d'entre nous. C'est parce qu'ils font référence à une situation connue, partagée par la plupart d'entre nous, où nous avons été effectivement dominés, où nous avons été effectivement sous devoir d'obéissance.
On a été oppressés, humiliés même.
Oppressés, humiliés, malmenés. Déformé aussi, parce qu'il y a quelque chose de la confiance en soi, il y a quelque chose de la confiance en la vie, il y a quelque chose de nous-mêmes que nous avons laissé sur le carreau. Nous nous sommes dissociés pour pouvoir adhérer au dogmatisme ambiant.
Pour pouvoir le supporter surtout.
Oui, pour pouvoir le supporter et ensuite le reproduire, parce que une fois que ça s'est ancré, nous ne savons plus que fonctionner avec ça.
Alors, c'est là où justement on se dit que le business intérieur, il est bien fait, dans le sens où, enfin, il est bien fait, si j'ose dire, c'est que pour ne plus avoir à subir ces abus que nous avons subis de manière continuelle et récurrente et ordinaire dans notre vie d'enfant, en fait, il y a à peu près deux ou trois stratégies, mais disons qu'il y en a une, c'est de dire, c'est moi maintenant qui vais devenir le chef. Comme ça, je n'aurai pas à subir d'autres chefs parce que ce sera moi au-dessus. Hein. Donc, on voit toutes ces stratégies où les gens ils vont à la course au diplôme, à la course à ci, à la course à ça, pour que justement ils ne se retrouvent pas dans des situations de subordination qui deviennent intolérables. Ou alors après, ils vont dans les alternatives, en réaction pareil à la hiérarchie. Et là, ça devient ni Dieu ni maître. De toute façon, on fait une espèce d'idéologie aveugle sur une notion d'équivalence aussi, où il y a personne qui décide, personne, voilà, c'est toujours on décide tous ensemble, etc. Sauf que derrière, on sait très bien, il faut pas être dupe de ça, et ceux qui sont encore dupes de ça, faites-en l'expérience, il n'y a pas de problème, mais sachez que nous avons fait cette expérience-là, et que de nombreux collectifs l'ont faite, et qu'en fait, quand ça n'est pas explicitement posé, c'est de toute façon des pouvoirs et des manœuvres implicites qui s'exercent,
Tout
et
à
que
fait.
de toute façon, la hiérarchie existe, mais de manière cachée, subtile, et c'est même encore plus hypocrite, c'est un peu comme la fausse CNV, hein, c'est-à-dire qu'on va parler avec des fleurs dans la voix, etc., de manière parfaitement non authentique, et c'est 10 fois plus violent que finalement quelqu'un qui vous dit non mais toi t'es une grosse merde, t'es un sale con, au moins là on sait où on est. On sait que la personne elle est authentique, elle a un problème avec moi, et là il y a un vrai dialogue qui peut s'inviter dans la relation, même si elle est difficile. Et ben l'histoire de la démocratie collégiale, avec tout le monde qui décide de tout, etc., dites-vous juste que c'est une vaste supercherie, en tout cas c'est notre expérience, on n'a jamais vraiment connu, alors peut-être ça existe, mais nous on ne l'a jamais expérimenté, et à chaque fois qu'on a vu des groupes, hein, et on en a quand même vu un peu, pas que le nôtre, en facilitation ou en accompagnement, de gens qui disaient non mais nous on décide tous ensemble, à chaque fois derrière il y avait forcément des enjeux cachés et des choses qui n'étaient pas dites.
Alors, je fais une parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire, Laurent, parce que c'est vrai qu'on s'est dit, nous, dans notre vécu, qu'on préfère quelqu'un qui parle cash et à visage découvert que quelqu'un qui se cache derrière des stratégies de communication bien huilées, mais qui n'en pense pas moins. Néanmoins, quelqu'un qui va parler chacal et qui va laisser pisser son chacal, comme on dit, ça peut créer beaucoup d'insécurité et ça peut aussi créer du figement chez l'autre. Donc, ça n'est pas non plus une solution, hein. À choisir entre les deux, peut-être que nous, c'est vrai qu'on, aujourd'hui avec l'expérience, on préfère quand même l'authenticité de la colère, par exemple, ou de l'agressivité. Mais ça demande un gros travail sur ces zones d'insécurité qui se sont senties agressées parfois autrefois quand on a été grondé, par exemple, la plupart
Oui.
d'entre nous, on a été grondé. Et qu'est-ce que ça a créé chez nous d'être grondé? Du figement, de la culpabilité. Une perte de confiance en soi, etc. Donc, quelqu'un qui vient agressivement, ça peut réveiller tout ça.
Oui, et puis il faut préciser que
Donc.
quand je dis ça, effectivement, c'est de toute façon pas agréable, mais quand même, comme tu le précises maintenant, et merci de le faire, c'est au bout de plein d'années
Oui.
de vécu, qu'effectivement on peut ne plus prendre ces choses-là personnellement et
C'est
de
ça.
voir que la personne, quand elle nous raconte vraiment quelque chose de difficile, etc., et qu'elle n'a pas les moyens de le faire autrement que de manière, entre guillemets, agressive, on le prend plus personnellement. Et donc ça, c'est
Mais
vrai que c'est quelque chose de précieux qui s'acquiert avec le temps et qui n'est pas confortable, mais qui reste possible.
avec le temps, mais aussi en ayant assumé une nomenclature hiérarchique qui nous permet de nous mettre en sécurité.
Ça, c'est sûr.
Parce que moi, je ne vis pas du tout de la même façon les assauts de quelqu'un qui me dit, oui, de toute façon, tu fais n'importe quoi, tu fais mal ton rôle, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre, etc. Maintenant que je me suis mise en sécurité juridiquement
C'est ça.
pour pouvoir garder la place que je me suis donnée et que j'ai sué sans et eau pour me donner hein, et que je pense légitime d'avoir, parce que le jour où je pense que c'est plus légitime, ben je ferai autre chose. Mais là, aujourd'hui, et c'est quand même incroyable de devoir à ce point faire son trou, quoi, et réclamer de pouvoir être légitime à l'endroit où on est. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est une déviance liée à ce manque de soins que nous avons les uns à l'égard des autres. Parce que si on avait appris depuis qu'on était tout petit que notre place est respectée, que nous sommes souverains dans notre existence et que nous avons le droit d'être comme nous sommes, que nous avons la possibilité de nous exprimer de la manière qui nous convient le mieux dans la mesure que ça ne nuit à personne, et qu'au contraire, il y a de la gratitude par rapport à la vie qui s'exprime à travers nous, comme on peut le faire dans des pédagogies différentes où on accueille les enfants vraiment tels qu'ils sont et on est en soutien de leur déploiement sans essayer de les tordre ou de les opprimer ou de les amener à quelque chose qui ne leur correspond pas. Eh bien, si nous avions eu ce care, hein, ce soin depuis tout petit, la question ne se poserait pas. Et par rapport au pouvoir et à la hiérarchie, non plus. Parce que nous aurions pris l'habitude d'avoir autour de nous des adultes qui sont dans le soin, qui sont bienveillants, qui sont en empathie, qui font pour soutenir, pour nourrir les besoins.
Et donc, si je peux me permettre, soit on devient soi-même porteur d'une vision, et donc on va y déployer toutes nos ressources pour faire que cette vision se matérialise, hein. Et effectivement, c'est le profil de toutes les personnes qui sont à l'origine d'un projet, notamment celles qui sont à l'origine de projets tels que les Oasis, c'est-à-dire que vous pouvez les reconnaître, parce que c'est des personnes qui se lèvent le matin avec ça en tête, et qui se couchent le soir avec ça en tête, et entre les deux, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré pour faire en sorte que le projet sorte de terre, tout simplement. Et ça, c'est ni bien ni mal, c'est une caractéristique. Voilà, c'est ce qui caractérise des personnes dont la fonction, le rôle, ça a été d'initier, de mettre en œuvre, de mettre en place. Voilà, c'est comme ça, c'est des caractéristiques. Et puis il y a des personnes qui vont arriver, qui vont voir ce qui leur est proposé, qui vont voir ce que les initiateurs proposent, qui vont justement partager cette vision-là en se disant « Waouh, c'est chouette, ce qu'on est en train de me proposer, ça me parle, ça me plaît, etc. » et qui vont vouloir amener leur énergie au service de cette vision-là. Et donc, à cet endroit-là, c'est juste pas la même place. En fait, c'est pas grave, c'est juste pas on n'est pas au même endroit.
Sauf que dans la plupart des cas, il y aura des individus dans le collectif qui vont faire du rentre-dedans aux porteurs de vision, aux fondateurs, aux personnes qui sont en charge du projet, parce qu'ils vont projeter une relation de pouvoir.
C'est ça.
Qui va être nourrie, soyons-en sûrs, par un tas d'anecdotes du quotidien, qui va faire que peut-être parce que le fondateur à un moment donné va dire non, parce que il va peut-être prendre une décision pour le bien du projet, une décision qui n'a pas été concertée, parce que il va tout simplement avoir un certain charisme ressembler à une figure d'autorité, je ne sais pas, il y a de multiples stimulations au quotidien qui vont renforcer la croyance que nous sommes dans une relation de pouvoir et de domination et que donc il faut mener un combat et une lutte contre ce pouvoir ou cette domination.
C'est ça.
Plutôt que d'aller avec. On ne sait pas et on est en incapacité, vraiment c'est un handicap dans les collectifs de voir les fondateurs autrement que des oppresseurs systémiques, hein, comme on dit.
Alors, oui, à ceci près qu'il faut, justement, c'est pour ça que le point de départ, c'était de faire la paix avec la notion même de hiérarchie. Parce que quand tu commences à te calmer vis-à-vis de ça, à voir que quand tu étais enfant, t'as été abusé, t'as été humilié, etc., t'as été grondé, et que du coup ta figure inconsciente qui est liée à la hiérarchie est une figure oppressive et négative, en fait, qui va attenter à ton intégrité d'être vivant, tout simplement. Et que donc, évidemment, c'est naturel d'être a priori contre la hiérarchie et d'être en souffrance face à elle. Ça, c'est OK. Maintenant, quand on a vraiment respiré avec ça, qu'on a réhabilité cette notion qui est naturelle, se dire en fait non, c'est vrai qu'il y a des choses au-dessus, des choses en dessous, et que c'est ni bien ni mal, c'est ok, c'est comme ça, c'est chronologique, c'est historique, et qu'on peut se leur réapproprier de manière positive. Alors ça veut dire qu'à cet endroit-là, on va pouvoir mettre en exergue, d'un point de vue social, et d'un point de vue du coup collectif au sein des Oasis, des rôles, et surtout, et c'est là où c'est, je pense, la chose la plus importante, c'est cette question du contexte. C'est-à-dire qu'il est il est absolument vital de considérer que le pouvoir, entre guillemets, détenu, oui, par une ou deux personnes qui sont les fondateurs, toujours pareil, les personnes sources, ou tout, appelez-les comme vous voulez, nous on s'appelle les gardiens à l'Oasis de Poulard, ce pouvoir-là ne s'exerce que dans un certain contexte. Il n'a pas lieu d'être tous les jours, il n'a pas lieu d'être au quotidien, dans toutes les discussions, parce que justement, là, on confine après au gourou, à la secte, où la personne, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. Ça n'est pas vrai.
Exactement.
Ça, c'est complètement faux, en fait. Donc, en fait, quelqu'un qui est un gardien, on ne pourra pas enlever, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas faire. C'est que cette personne-là, qu'on le veuille ou non, de par son rôle, effectivement, sa voix ne sera pas tout à fait prise, perçue, de la même manière que toute autre personne dans le groupe. Ça, c'est vrai. Et il faut l'accepter. Juste de par son rôle, parce que justement, l'inconscient étant ce qu'il est, les représentations du monde étant ce qu'elles sont, on ne peut pas s'abstraire de ce phénomène-là. En revanche, et c'est là où la gouvernance peut être super précieuse, c'est qu'on sait que le rôle gardien, c'est une casquette, hein, qui est rangée au fond d'un tiroir. D'accord ? Et que ce tiroir-là, il peut rester fermé tant que le contexte n'exige pas qu'il s'ouvre.
Laurent, si on s'assoit en cercle pour parler d'un phénomène épidémique, par exemple, d'une maladie qui arrive,
oui,
et qu'il y a un médecin dans le cercle, je peux te garantir que sa voix ne va pas avoir le même poids que Madame Michu qui donne son avis sur la situation.
Mais c'est exactement ça.
Mais c'est exactement la même chose. Donc, c'est pas un pouvoir absolu. C'est un
ça.
Pouvoir circonstancié.
Absolument.
Donc, être gardien dans un projet collectif, c'est la personne qui a initié le projet, qui a eu la vision, qui l'a annoncé et qui a dit « on va aller dans cette direction, on va faire ceci », qui a mis son engagement, qui a mis son temps, qui a mis son argent,
et
qui
voici,
a mis sa responsabilité.
Et voici comment on
et
va
voici
s'y prendre.
Comment
aussi.
On y va. Mais on y va, les gars. Et donc, ce qui n'est pas négociable, c'est de pouvoir dire « ah ben non, maintenant, c'est plus toi qu'on écoute, on va ailleurs ». Ben, en fait, non. Si tu veux aller ailleurs, tu fais ton projet et tu vas là où tu veux. Mais dans ce projet-là, je suis gardien, on va dans cette direction et je te la rappellerai autant de fois que nécessaire. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour revenir sur cette question aussi de calibrer le degré de hiérarchie à la situation, ce matin, on en parlait en prenant l'exemple des pompiers. On ne fait pas de gestion par consentement lorsqu'il s'agit d'éteindre un feu. Lorsqu'il s'agit d'éteindre un feu, la hiérarchie, elle est claire, elle est franche et elle est dictatoriale.
Et elle est vitale.
Et vitale, parce que ce qui compte le plus, ce n'est pas la forme que prennent les relations à travers l'organisation. Ce qui compte, c'est l'intention et ce qui compte, c'est le projet. Qu'est-ce que cette organisation doit servir ? Lorsqu'on doit servir éteindre un feu, à ce moment-là, le verbe arbitraire à sa place, l'impératif à sa place, que le fait que ce soit une personne qui prenne toutes les décisions en situation à sa place, l'obéissance à sa place.
Parfaitement.
Tout ça à sa place. Quand il s'agit, je vais donner l'exemple aussi, de partager un repas en famille, autour d'une table avec les parents, les enfants, à ce moment-là, la hiérarchie, elle est rangée dans les tiroirs au maximum parce que qu'est-ce qui va être le plus important dans cette situation ? C'est le bien-être, c'est l'harmonie familiale, c'est la convivialité, c'est la confiance, c'est le soutien à chacun, c'est peut-être la liberté de parole, etc. Donc quand quelqu'un comme la psychologue qui défraye les médias mainstream, Caroline Goldman, dit qu'elle met son enfant dans sa chambre à réfléchir parce qu'il lui a coupé la parole à table, c'est stupide. Ça n'a rien à faire là et c'est contre-productif parce que la seule chose qu'elle va faire, c'est une forme de castration sur son enfant et de cultiver... Alors c'est vraiment purement
puis c'est une séparation.
C'est une séparation puis c'est purement une relation de pouvoir bête et méchante quoi. C'est vraiment faire le rappel à l'enfant que c'est l'adulte qui a le pouvoir et que c'est l'adulte à qui il doit obéissance et forcément c'est complètement contre-productif par rapport à la santé mentale de l'humanité tout simplement. Donc à ce moment-là, la hiérarchie n'a pas d'intérêt.
Aucun.
Aucun. En revanche, on l'a vu aussi quand on laisse un groupe d'adolescents livré à lui-même Et organiser son quotidien autour de sa vie au collège et de son retour à la maison, faire des devoirs dans une maison où les parents sont absents, où ils sont absorbés dans leurs problématiques financières, affectives, émotionnelles, etc. et où ils n'ont pas de temps et pas d'espace pour leurs ados. Qu'est-ce qui se passe? On le voit à travers le film, la série Adolescence, mais c'est un film qui ne fait que relater d'un fait divers qui est de plus en plus courant. C'est l'ultra-violence entre ados lorsqu'ils sont obligés de s'attacher à leur père, donc de trouver ce qui fait un substitut, de trouver un substitut au fait que les adultes alpha sont absents dans leur entourage. Donc ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de lien, ils n'ont pas d'attachement avec les adultes qui devraient constituer leur contexte affectif et émotionnel. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Eh bien ils vont s'attacher à leur père, ils vont coder avec leur père, ils vont ritualiser avec des relations avec leur père, mais ça sera délétère et très souvent violent parce que ce n'est pas le rôle d'un ado de soutenir psychiquement un autre ado. C'est à l'adulte de le faire. Et à ce moment-là, encore une fois, la hiérarchie prend tout son sens. Il faut des adultes alpha autour des enfants et autour des adolescents.
Des adultes bienveillants, soutenants, au service. Et là où après on peut se dire, mais alors ok, dans ces cas-là, comment je fais moi maintenant? Je suis adulte, je veux rejoindre des oasis, je veux rejoindre un collectif, etc. Ben, on peut se poser deux questions. La première, c'est ben, vas-y, fais ton projet, et à ce moment-là, deviens toi-même la personne source, le porteur de projet qui va développer une vision, la proposer et attirer à lui des personnes qui vont nourrir cette vision, nourrir ce projet-là, et tu vas prendre ton rôle de responsable en responsabilité d'eux. Ou alors, choisis bien ton porteur de projet et regarde sa vie, regarde comment il s'est positionné, regarde s'il est abusif. Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. C'est se demander si, entre guillemets, ton chef, la personne qui a le rôle de gardien ou voilà, qui est sur le cabis de la société, qui est le responsable même juridique, hein, parce que tout ça est évidemment fondé juridiquement. Hein.
Ou celui qui a abondé financièrement le
Voilà, enfin, des choses qui sont contractuelles quand même. Hein.
Mmh.
C'est important de regarder
Mmh.
ça, parce que financièrement, des fois, et c'est très bien
Oui, des fois,
d'ailleurs,
il y a
dans les
des
coopératives
mécènes
notamment,
qui
voilà.
ont un rôle de mécène.
Et puis c'est très bien, parce que l'argent ne fasse pas le pouvoir, moi je trouve ça très bien. Donc c'est pas tant ça que vraiment la liberté que tout le monde a, c'est de choisir son alpha ou de devenir soi-même un alpha. Voilà. Et ça, n'importe qui peut le
Son
faire.
ou ses alphas.
Oui, mais en général, justement, pour pas retomber dans l'espèce de pseudo-collégialité qui voudrait que, en fait, personne décide, on est tous à décider, il y a quand même, in fine, dans cette pratique-là, dans cette vision-là, un rôle qui a la charge, si vraiment personne s'entend, parce que même le collège en question, là, le collège en question, qui serait soi-disant super équitable, super gouvernance partagée, où on est obligé de tout voter à l'unanimité ou à zéro objection, même ce collège-là, à un moment donné, si lui-même n'est pas d'accord et s'il y a des objections impossibles à lever, alors qu'il y a des échéances absolument vitales et urgentes qui sont vraiment incompressibles, eh ben, il va bien falloir s'en sortir. Et c'est le coup de l'incendie dont tu parles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une personne qui ait le dernier mot.
C'est pour
Ça,
ça qu'il faut
on
le
y croit.
traduire juridiquement.
Voilà. Et
Ça, il
ça,
faut une
on y.
traduction juridique.
Même si ce contexte-là va arriver une fois en 10 ans, la question, elle est de se dire, prévoyons-le. On prévoit qu'il y a un rôle qui, à un moment donné, peut être sorti du tiroir en cas de blocage. En cas de blocage, si vraiment on n'y arrive pas, il faut qu'il y ait une personne qui soit plutôt que. Alors, il y a des gens qui vont dire non, on s'en remet au vote. D'accord? On s'en remet au vote et là, on retombe dans l'espèce de pathos, de pathocratie, comme tu dirais, c'est-à-dire en fait les jeux de pouvoir de l'opinion qui auront été tricotés
C'est
durant
ça.
potentiellement des années durant, où finalement le projet va aller sur l'autel d'un vote, hein,
Un
soi-disant,
vote qui peut être
qui peut
parfaitement
être
émotionnel.
émotionnel, truqué, tout ce qu'on veut.
On est d'accord.
Voilà. Donc, ou alors, on va se dire, ben en fait, qui est à l'origine de ce projet. Qui a posé l'intention? Qui a posé la vision? Qui s'est mouillé jusqu'au cou pour que ces choses adviennent, etc. Est-ce que ce serait pas à cette personne-là, quand on ne sait plus où aller, quand il y a une espèce de chaos au sein même d'un organe qui serait l'organe du pouvoir avec 10 ou 12 personnes qui seraient chargées de voter collégialement et qui n'y arrivent pas? Eh bien, vers qui on pourrait se tourner pour que quand même il y ait une réponse adaptée à la situation.
Alors, pour moi, il faut que ce soit enfin, là où nous en sommes maintenant avec notre état de conscience du moment, évidemment, il faut que ce soit explicite dès le début.
Mais bien sûr.
C'est-à-dire, dès l'accueil des participants, on leur dit, ben voilà, ici, ça fonctionne comme ça. Et c'est à prendre ou à laisser. Et
bien sûr.
Et c'est en connaissance de cause que les gens vont venir ou pas participer.
Complètement.
Après, peut-être, il y a un point sur lequel on n'a pas tout à fait encore assez insisté, c'est que ce schéma relationnel dominant, hein, celui qui est le plus courant, le plus ordinaire, et qui repose sur la relation de pouvoir, les fondateurs n'y échappent pas. Et évidemment, la plupart d'entre nous avons un énorme travail à faire pour nous débarrasser de ces relations de pouvoir, et il n'est pas rare que les fondateurs eux-mêmes soient pris dans des logiques de pouvoir. Donc, le travail, il est pour tout le monde. Il n'y a pas les fondateurs d'un côté, les participants de l'autre. C'est absolument pour tout le monde. Tout le monde a à faire ce travail de nettoyage de ces relations-là pour accéder petit à petit à des relations où le soin de l'autre, de soi, du projet, de la nature, de tout ce qu'on veut, le rôle de service devienne prioritaire sur les fonctions de pouvoir.
Non, mais c'est pour ça d'ailleurs que ce qui est super intéressant, c'est que quand on se laisse interpeller, quand on est en capacité de se laisser interpeller, ou justement on a cru que le périmètre du rôle gardien était étendu à un endroit où finalement il n'a pas vocation à exister, eh ben c'est super, parce qu'on a évolué. On a vu que, et nous, on a pu être pris par ce genre de problématiques parfois, mais la question, c'est de savoir si le jour où on commet une faute, entre guillemets, d'appréciation, par exemple, hein, sur tel ou tel sujet, on est capable de le reconnaître, et de se dire, ah ben oui, tiens, vous avez raison, là, c'est pas une bonne idée, ce serait, dans ce contexte-là, il n'y a pas spécialement lieu d'appliquer une forme d'autorité sur cette question-là.
Mais tu trouveras toujours des gens, Laurent, qui ne sont pas d'accord avec toi, qui même contestent le fait que tu te remets suffisamment en question, etc. Il y en aura toujours. Et ça, faut le prévoir aussi.
Ah, mais c'est pour ça que dans les statuts, on l'a posé.
Que ça ne puisse pas être une raison suffisante pour mettre le projet à feu et à sang et essayer de le détruire.
Ah non, mais bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a posé ça dès l'arrivée dans l'Oasis au sein de statuts gravés dans le marbre de la coopérative, et qu'effectivement à cet endroit-là, ça n'est pas, tu l'as dit tout à l'heure en début de cette conversation, ça n'est pas négociable. C'est-à-dire qu'en fait, on te présente ça de manière explicite pour justement être authentique dans la réalisation qu'on veut mettre en œuvre et des moyens qu'on se donne pour la mettre en œuvre. Et toi, en tant que participant, tu choisis ou pas de rentrer dans cette proposition. Et tu peux très bien choisir d'y rentrer pour l'expérimenter, pour en faire vraiment l'expérience sincère, et te dire, non mais moi finalement ça me convient pas, ça m'insécurise, parce que effectivement Sophie et Laurent, finalement c'est toujours eux qui ont le dernier mot, ou je sais pas quoi, tout ce que tu veux, et à ce moment-là tu peux dire, bah écoutez, moi ça ne me convient pas, donc je m'en vais. Et c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Nous on n'a pas la même lecture, parce qu'on estime qu'il y a plein de sujets sur lesquels on n'a pas le dernier mot ici, à notre oasis, l'oasis qu'on a fondée, mais qui ne nous pose aucun problème, en fait. Parce que moi, j'aimerais bien que, quand je dis notre oasis, j'aimerais bien que tous les participants qui sont là puissent dire aussi notre oasis. Ce n'est pas exclusif à Sophie et à Laurent, c'est toutes les personnes qui ont envie de s'engager sincèrement dans ce projet et dans cette trame telle que nous l'avons conçue. Après, oui, il y a des choses sur lesquelles on sait qu'il y a un contexte qui exigera peut-être justement de conflits, de polarités très, très fortes ou de chaos, qui exigera qu'on prenne notre casquette de gardien pour rappeler la raison d'être et pour remettre un cadre là où potentiellement il y a besoin. Mais après, le reste du temps, je vous mets au défi, quand vous arrivez à l'Oasis de Poulard, de reconnaître qui a le rôle gardien si vous ne nous connaissez pas. Hein. Parce que vous allez nous voir à des activités qui sont parfaitement ordinaires, qui sont parfaitement quotidienne et qui ne dénote pas du fait qu'on a un rôle spécifique en cas de besoin, en cas de nécessité. Voilà. Donc pour nous, vraiment, cette histoire de gardien, elle est absolument, vous l'avez compris, cardinale et fondatrice même d'une sécurité par rapport à la vision. Et après, elle ne devrait, selon nous, s'appliquer que dans des contextes hyper spécifiques, hyper précis même, pour justement rassurer les parts qui peuvent se sentir insécurisées par le fait qu'il y a effectivement quelque chose au-dessus. Et moi, pour finir, J'aimerais pouvoir dire que après, ça m'a fait écho dans ma vie, je dirais plus intime, d'essayer de me dire, bah oui, en fait, moi j'ai souvent entendu dire, ou je me suis entendu dire, j'étais hors de moi dans telle situation. Et en général, quand on dit qu'on était hors de soi, c'est qu'on n'est pas très fier de ce qu'on a fait par la suite, hein. Et moi, j'aimerais me dire, bah tiens, si j'étais hors de moi, ça veut dire que c'était qui, moi, à ce moment-là, qui agissait? C'était qui prenait le contrôle? C'était qui était assis sur le trône de mon intérieur à moi à ce moment-là, qui pilotait mes comportements? Parce qu'il y a bien un trône aussi à l'intérieur de moi. Il y a bien quelqu'un qui pilote tout le temps et qui contrôle ce que je fais. Et donc à cet endroit-là, ça m'a rappelé que je pouvais choisir de me tenir aussi au-dessus de la mêlée de la pathocratie dont tu parles, Sophie, c'est-à-dire du pathos ordinaire, de mes problématiques souffrantes, de mes sentiments d'insécurité, etc. Et que si c'est ça qui prend le contrôle de ma vie, alors je peux être sûr que mes comportements vont être incohérents au regard des valeurs fondamentales que j'essaye pourtant de mettre au-dessus et d'incarner au quotidien.
Et que si chacun fait ça dans le collectif, on fait un beau sac de nœuds.
On fait un beau, vrai sac de nœuds. Et donc l'idée, c'est de se dire, bah ouais, tiens, moi aussi, intérieurement, je vais essayer de me placer au-dessus de mon sac de nœuds perso, parce que il existe, il n'y a pas de problème, il est là. Et il peut être stimulé au gré d'une situation humaine que je vais vivre dès que je passe le seuil de ma porte ou même à l'intérieur de mon propre foyer. Maintenant, la question, c'est de savoir ce que j'en fais. Est-ce que je me laisse guider par des problématiques souffrantes que je me trimballe depuis mon passé, mon enfance, voire même potentiellement des générations qui m'ont précédé? Ou est-ce que je choisis en conscience d'essayer de les traiter et de me hisser au-dessus de ça pour cultiver ce que tu appelais le devoir de paix? C'est-à-dire dans les oasis, dans les collectifs et intérieurement, cette invitation à se mettre au-dessus pour atteindre un certain degré de paix, de tranquillité, d'abord avec moi-même et par extension avec mes semblables.
Tout à fait. Et là aussi, c'est un choix, donc c'est une hiérarchie. Est-ce que dans ma hiérarchie personnelle, je mets en priorité quelque chose qui est plus grand que moi, qui est de participer à un projet, de participer à une raison d'être, qui est une aspiration haute de comment j'ai envie de vivre, et où est-ce que, effectivement, je reste avec tout ce qui m'agite intérieurement, tout ce qui est compliqué, difficile, souffrant, je communique à partir de ça. Et dans ce cas, on sait très bien ce que ça donne. C'est pour ça que Laurent rappelle que j'appelle ça dans les collectifs la pathocratie, hein, parce qu'on parle de la sociocratie, l'holacratie, démocratie, mais pour moi, quand les échanges se font à partir des perturbations émotionnelles, c'est vraiment de la pathocratie, le pouvoir donné à l'émotionnel souffrant. Et ce n'est pas ce dont j'ai envie personnellement. Moi, j'aspire à m'élever au-dessus de ça, parce que la vie est courte, elle passe vite, on a des enfants qui grandissent avec nous, pour lesquels on est inspirant, nous sommes des modèles, qui nous regardent vivre, et on sait très bien que ce qui est le plus confortable pour un humain, c'est la paix. C'est la paix, c'est la tranquillité, c'est l'empathie, la bienveillance, et ce ne sont pas que des mots, c'est aussi un état. Un état très concret. Et j'observe à quel point cette paix est perturbée et fragile lorsqu'il y a un certain nombre de comportements émotionnels qui vont se déverser au cœur du lieu.
Ouais, pour finir, moi j'ai juste envie de partager encore cette analogie que je fais, parce que c'est pas parce que j'essaye, mon projet, c'est de me hisser au-dessus de mon sac de nœuds personnel, que je regarde ce sac de nœuds de haut avec mépris. Non, en fait, non, parce que c'est aussi ça qui m'a construit, c'est aussi ce qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et que ma vie ressemble à ce qu'elle est. Et donc, c'est pas parce que je veux, mais de manière extrêmement résolu et déterminé, me hisser au-dessus du sac de nœuds, que je nie le sac de nœuds, et que même que je le méprise, que je le respecte pas. Non, il existe, il est là, et pour moi, il sera toujours là.
Il ne
La
s'agit pas
question,
de
c'est de
s'en
ça,
couper.
voilà. Il s'agit pas de s'en couper, il s'agit de ne pas en être victime et de pas le laisser prendre le contrôle. Et qu'à cet endroit-là, en revanche, je suis vraiment résolu et déterminé à le moins possible lui laisser le contrôle de ma vie. Voilà, donc c'était la petite ouais, parenthèse du jour, mais qui nous semblait vraiment, vraiment, vraiment importante dans l'état qu'on est aujourd'hui dans les collectifs.
Mais là, tu parles en jeu, mais c'est complètement valable pour le collectif.
D'un point de vue social, oui, tu veux dire.
D'un point de vue social, c'est exactement les mêmes...
Les mêmes ressorts. C'est les mêmes ressorts.
Ouais, okay. Tout à fait.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous nous avez écoutés jusqu'au bout.
Et puis, on espère aussi que ça vous aura intéressé et parlé. En tout cas, nous sommes toujours preneurs de vos retours, de vos témoignages. N'hésitez pas.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.